Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un duo de créateurs exceptionnels. Auteurs de plus de 20 albums pour la jeunesse, tous très différents et tous également passionnants. Ils ne sont généralement pas destinés aux plus jeunes. Ils abordent des sujets parfois graves, voire délicats. Les thématiques et les genres varient systématiquement. Il n'y a pas de héros récurrents. Mais les personnages sont forts, fortes, et vivent des aventures initiatiques dans des mondes complexes ou des situations surprenantes qu'il leur faudra dépasser. Le texte est toujours fidèlement valorisé par des illustrations recherchées et envoûtantes. Chacun des auteurs apporte à l'œuvre ce qui le passionna durant son enfance. Pour l'un, ce fut les récits de voyages ou d'aventures. Jack London, Herman Melville, Ernest Hemingway, Romain Gary, Jules Verne. Pour l'autre, les références sont plutôt télévisuelles, cinématographiques, des westerns, des histoires de pirates. Et surtout, l'illustrateur rend régulièrement hommage aux peintres qu'il admire. De Vermeer à Hopper, en passant par Waterhouse et Cornwell. Son approche filmique et son regard de peintre, il expose régulièrement en galerie, enrichissent l'histoire de bien des façons. Cette admirable collaboration a donné lieu à de multiples récompenses. Prix Sorcière, Goncourt Jeunesse, Prix Baobab, Prix Chrétien de Troyes, Prix des Incos. Voici le premier ouvrage qu'ils ont signé en 1996 aux éditions Albin Michel Jeunesse. De Fred Bernard pour le texte et de François Roca pour l'illustration, La Reine des Fourmis a disparu. La couverture de ce magnifique album, réédité en 2004 puis 2016, nous invite à entrer dans un univers de forêts tropicales très vert, profondément vert, qui semble nous chuchoter des secrets. Mais on découvre vite, en bas, à droite, le rouge vif de deux fourmis accablées qui réfléchissent très fort. « On a enlevé notre reine !» Ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis. Il me semble qu'il hante encore les galeries de la fourmilière. Notre reine, notre mère à tous a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure. Oh, autant chercher une aiguille dans une meule de foin, dira-t-on. Et c'est moi, mandibule de savon, qui suis chargée de l'enquête. Je suis à la fois détective et représentant de la loi de la jungle au sein de la tribu des fourmis rouges. Ma mission ? Mettre la patte sur celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la nuit. Pour me seconder dans ma recherche, on m'a confié un jeune assistant, Élytre de lait. Moi, je l'appelle Élie, tout court. Bon, pour le moment, le mystère est entier. Heureusement, un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille. Il s'agit d'un poil. Un poil perdu par l'agresseur, sans nul doute. Je l'ai découvert dans la chambre de la reine, parmi les débris du plafond. Mais à qui peut appartenir ce fameux poil ? Voilà nos deux enquêteurs partis en mission à la recherche de témoins ou de suspects. D'abord, ils vont interroger Socrate, le gros singe, dont aucun poil ne ressemble à leur pièce à conviction. Et puis, ils vont élargir leur périmètre d'investigation, en évitant, si possible, les fausses pistes. Élie et moi, nous allons donc au bar des pucerons pour poser quelques questions. Toutes les fourmis rouges qui s'y trouvent sont persuadées que ce sont les fourmis noires qui ont fait le coup. Merci les gars, mais ça serait un peu trop simple. Ces fourmis-là ne voient pas plus loin que le bout de leurs antennes, et puis on ne leur connaît pas d'autre poil que celui qu'elles ont dans la patte. La délicate entrevue avec le tama noir n'aboutira à rien, et la panthère noire ne leur accordera aucune aide. Quant aux bébés jaguars, ils ont des poils plus brillants et soyeux. Les grands aplats généreux de François Rocca nous inspirent dans l'épaisseur de la forêt et entretiennent une atmosphère mystérieuse à souhait. Après les mammifères, nos compères passent en revue tous les insectes à poils, mais ceux du papillon de nuit sont bien trop fins et légers. Plus loin, la tarentule ne leur sera d'aucun secours. Ensuite, les deux fourmis débouchent sur ce qui ressemble à une immense rivière de terre rouge dont la surface est couverte de marques étranges. Et ils vont marcher des heures dans ce paysage de désolation où une longue cicatrice de terre file à perte de vue dans la forêt. Une nuit d'encre vient de remplacer rapidement la lumière vive de la journée lorsque des ombres inquiétantes nous font stopper net. Un frisson glacé nous traverse à la vue de ces énormes bêtes, ces insectes immenses qui se dressent vers les étoiles, immobiles, comme hypnotisés ou bien morts. Oh, ils ont des mâchoires et des dents effrayantes et des pattes bizarres, et puis une petite tête au bout d'un long cou levé vers le ciel à la façon d'une mante religieuse. On remonte la colonne des fourmis ouvrières qui transportent toutes sortes de fragments d'objets inconnus et le lecteur comprendra vite le rôle de l'homme appelé ici « indien blanc » par les fourmis. Le poil appartient sans nul doute à l'un d'entre eux. Dès lors, Mandibule et Ellie vont poursuivre ces hommes sans relâche, allant jusqu'à monter dans cet oiseau de fer dont parlent les Indiens de la forêt. Il est rempli d'animaux en cage, emportés, terrorisés, vers une destination inconnue. Peut-être l'endroit où la reine est retenue captive ? À leur arrivée dans le monde appelé « civilisé », beaucoup de tristes surprises attendent nos opiniâtres enquêteurs, mais leur sixième sens finira par les aider. Nous passons devant un gardien qui n'a pas l'air commode. Il veille devant la porte comme une fourmi soldat à l'entrée des galeries. Au bout d'un long couloir et de quelques petites pièces sombres s'ouvre une immense salle. Nous sommes à peine dépaysés, tellement ce bâtiment ressemble à une fourmilière géante. Ah, par le poil mystérieux, que vois-je ? De la forêt tropicale luxuriante au grand musée aussi fascinant qu'effrayant, les auteurs entraînent le jeune lecteur dans des péripéties habilement instructives. Le ton du narrateur, à la fois humoristique et distancé, convient très bien à cette histoire qui tient du roman policier et de la fable écologique pour les 8 ans et plus. Pour clore ce récit, un vol à dos de toucan vous est offert. Il suffit de vous accrocher aux plumes. Bon voyage.
Ma famille nombreuse, c'est le titre. 76 poèmes et un éléphant, c'est le sous-titre. David Dumortier et Lucie Plassin en sont les auteurs et illustrateurs. Et c'est un album publié en 2009 aux éditions Rue du Monde pour le printemps des poètes. Bienvenue dans une famille vraiment nombreuse. Une paire de parents et 6 paires de jumeaux. Maman. Maman a été enceinte 6 fois. Chaque fois, elle a eu des jumeaux ou des jumelles. Vous avez bien compté, il y a 12 enfants dans notre maison, plus papa et maman. 14 personnes sous un même toit. Presque un village de montagne, non? Et grâce à nous, l'école n'a pas fermé. Anecdotes, joies et tourments de cette vie du grand nombre se déroulent en courts textes et en images toniques, sur un ton alerte et dédramatisé. Alexandre. Ce matin, Alexandre a pris son cartable et il est parti à l'école. Mais on est le 15 août, Alexandre. C'est encore les vacances. Ah bon? Il pleuvait. Alors j'ai cru que c'était la rentrée. Jérôme. La famille part en promenade aujourd'hui. Jérôme ne porte qu'une chaussure. Toute la maisonnée s'est moquée de lui, et bien comme il faut. T'as pas de chaussure au pied droit. Mais où t'as la tête, Jérôme? Pour faire cesser les rires, Jérôme n'a pas hésité une seconde. Il a passé sa chaussure gauche à son pied droit. toute une foule gravite autour de cette famille très spéciale, de l'assistante sociale au forain du cirque, en passant par le chat du voisin, le potager, l'épouvantail, le serpent. Mais les enfants rêvent d'un éléphant. Papa, tu vas nous l'acheter quand, l'éléphant ? Oui, tu avais dit que t'en achèterais un, et pas deux, parce que un, ça suffirait pour nous tous. Mais j'ai dit ça pour rire. Oui, mais nous, on n'aime pas rire, papa. Ah, vous n'aimez pas rire ? Alors vous n'êtes pas prêt à accueillir un éléphant, parce que les éléphants aiment beaucoup rire. Mais les enfants insistent. Papa ! Oui, les enfants, c'est Noël. Plutôt que d'acheter à chacun un cadeau, pourquoi tu ne nous offrirais pas l'éléphant ? Les enfants, les éléphants font partie des espèces protégées. Mais nous, on le protégera le nôtre. Et comment ? Eh bien, si la police arrive, on le cachera sous la cendre. Jusqu'au jour où... Enfin, ça y est, papa nous a acheté l'éléphant. Il est rose jambon, il grogne, sa queue est en tire-bouchon et il n'a pas de trompe. Nous l'avons dit à toute l'école qu'on a un éléphant. Mais pas question d'inviter les copains à venir le voir, ça serait trop dangereux pour eux. La vie continue. Il y aura même à l'école la visite d'un poète, Jean-Pierre Siméon. Un poète dans la classe. Un poète est venu dans la classe. Il s'appelle Jean-Pierre Siméon. Quand il est entré, notre ventre s'est soulevé. Il n'a rien vu parce que la nuit respire sous nos habits. Secrètement, je suis encore dans ce poème que j'ai écrit sur une page pendant qu'il parlait. Le voici. Il pleuvait sur mon visage. Une fille m'a regardé et j'ai plu. Et puis, quelques pages avant la fin, « Maman attend un bébé !»« Oui, oui, un bébé !» Le docteur est sûr de lui. Elle a juste un bébé dans le ventre et ce sera un garçon. Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'a pas de jumeaux ? Je sais qu'il n'a pas de nom, qu'il n'y a pas de nom pour toutes les situations. Justin, ça lui irait bien. Voilà, c'est frais, c'est drôle. Les illustrations de Lucie Plassin, très colorées et très riches de détails, sont parfaitement adaptées à ce texte déjanté, à lire à partir de 5-6 ans.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.